Bonjour, bienvenue dans Super Burnette. Je suis Marlène. J'ai imaginé et créé ce podcast pour partager avec vous mes rencontres avec des personnes inspirantes. Parmi elles, j'ai rencontré Anne-Sophie qui a fondé l'association Elle Burn que nous appelons les Burnettes. L'association sensibilise les publics à la question du burn-out. Après des mois de fatigue, culpabilité, désespoir, il y a l'après-burn-out. Cette année, j'ai à cœur d'interviewer des femmes qui témoignent des violences sexuelles et sexistes qu'elles ont subies au travail et qui les ont précipitées vers le burn-out. Beaucoup de personnes témoignent de telles violences. Aujourd'hui, on veut en parler, comprendre et surtout sensibiliser face à ce sujet grave et préoccupant. Donc nous revoilà pour la deuxième partie de cet épisode sur les VSST en mode experte. Retrouvez juste après toutes les mesures de prévention et les acteurs locaux pour vous accompagner si vous êtes témoin ou victime de VSST.
Est-ce que Jeanne, tu peux désormais nous donner les moyens de prévention face aux VSST ?
Alors, les moyens de prévention, ils sont entre autres inscrits dans le cadre légal qui régit les relations dans le monde du travail. Et donc, il y a un article qui est très important sur ces questions-là, notamment des risques psychosociaux, parce que les VSST, ça rentre dans les risques psychosociaux. C'est l'article L4121-1-2 du Code du travail qui porte obligation à l'employeur de prévention de la santé mentale et physique au travail. Et donc, cette prévention-là, elle veut dire que je dois organiser mon entreprise ou mon institution de manière à ce que ça ne porte pas atteinte à la santé mentale et physique de mes salariés. Et ça se décline du coup derrière par des mesures de prévention qu'on catégorise en termes de prévention primaire, secondaire et tertiaire. Donc, l'épisode qui va être réalisé avec l'avocat rentrera davantage sur ces mesures-là sur le plan collectif au sein du travail. Et elles sont importantes pour que je sache à la fois si je suis victime ou témoin, ce que j'ai le droit de faire, ce que je suis fondée de faire au regard de la loi et comment faire et les acteurs vers qui je peux me tourner dans ce type de situation-là. C'est parce que je sois victime et ou témoin, j'agis, que je peux faire changer les choses. Si on reste tous enfermés dans une posture de silence à subir, eh ben, on continuera à avoir les chiffres que je t'ai évoqués en début de podcast.
Ouais, c'est très juste. Et quelles solutions concrètes, du coup, s'offrent aux victimes pour se défendre, rebondir face à ce qu'elles vivent?
Oui. Alors, sur le plan légal, l'avocat le présentera.
Oui, bien sûr, dans le détail, sur les procédures et les sanctions également.
Exactement. La logique, c'est je pars de la prévention, je traite s'il y a des situations et je sanctionne s'il y a besoin.
D'accord.
Le présenter comme ça. Donc, il y a une obligation de prévention et une obligation de réaction. Comment réagir ? On peut peut-être aller là-dessus, tu vois, sur…
Oui.
Par exemple, je suis témoin et je suis face à une situation. Il y a une association qui avait mis en place un repère qui s'appelle le repère des 5D. Et j'avais envie de t'en parler aujourd'hui parce que toujours dans notre logique de donner des repères aux gens pour savoir discriminer de quoi il s'agit et comment réagir, je les trouve très intéressants. Les 5D, c'est ça, c'est distraire, déléguer, diriger, documenter, dialoguer. Je te les explique rapidement pour les cinq. Distraire, ça veut dire qu'il faut détourner l'attention. Par exemple, je vois que j'ai mon collègue, tiens, on va reprendre un des exemples, tu vois, qu'on a vu ensemble au début du burn-out, qui, une fois de plus, sur une réunion, pour la xème fois, fait un commentaire sur le décolleté de la collègue et sur le fait que vraiment, lui, ça lui fait très plaisir quand elle rougit, je vais demander l'heure, je vais trébucher, je vais renverser mon café. Bref, je vais détourner la situation pour faire cesser ce qui est en train de se passer. Ensuite, il va falloir se référer à une figure d'autorité, avec l'autorisation de la personne, bien sûr. Donc, ça, c'est la notion de délégué. C'est-à-dire, bah, voilà ce qui se passe, en fait, dans le cadre du travail. Ce n'est pas normal, ce n'est pas autorisé par la loi, voire c'est interdit et c'est sanctionnable. Donc, il faut en référer à la personne qui fait autorité au sein de l'entreprise.
Que ce soit nous en tant que victimes ou nous en tant que personnes témoins de la situation.
D'accord. Oui, alors tu ne vas pas forcément t'y prendre de la même manière, parce que si tu es victime, souvent tu n'es pas très bien, donc c'est un peu compliqué. Mais l'idée principale, c'est celle-là. Ensuite, si je suis témoin, et par exemple, typiquement si je suis collègue, et ben, le minimum que je puisse faire quand même quand je suis collègue, c'est aller rassurer la victime. Et aller lui dire, c'est pas normal ce qui est en train de se passer, c'est pas normal ce que tu as vécu, et je vais t'aider à demander de l'aide. D'accord ? Alors, avec des réactions différentes possibles, bien sûr, du côté de la victime, mais le minimum, c'est de faire ça. C'est d'aller vers l'autre et de lui proposer notre aide. C'est fondamental. Mmh. Ensuite, la notion, donc ça, c'était la notion dirigée. La notion documentée, c'est de tracer. C'est super, super, super important. Donc, il faut faire un écrit factuel, c'est-à-dire un écrit qui va retracer ce qui vient de se passer. Et dont éventuellement j'ai été témoin si je suis côté témoin, et dont je suis victime si je suis côté victime. Et les impacts que déjà je perçois. Exemple, c'est la 25e fois en 5 ans que mon supérieur hiérarchique il fait des allusions à ma poitrine, à mes fesses pendant les réunions. Et j'en peux plus en fait de subir ça. Et à chaque fois, ça me met dans un état de stress pas possible. J'ai mal au ventre, j'ai envie de pleurer quand je sors, je tremble, etc. Et ben, il faut tracer ça. Il faut dire de façon factuelle, voilà ce qui se passe à tel moment, dans telle condition, et voilà les effets que ça a sur moi, sur le plan de ma santé physique, sur le plan de ma santé psychique et sur ma capacité à faire mon travail. Et il faut demander à ce que ça cesse. Ça, c'est important de l'écrire. Une phrase du type, je vous demande la cessation de ces agissements. Car il revient à l'autorité, par rapport à ce que je te disais préalablement, de faire cesser ces agissements. Ça, c'est la notion de documenter. Dernier élément, dialoguer. Il faut signifier son malaise et mettre des mots sur ce qu'on vit. Et donc, le collègue, il est important. Je dis collègue, quel que soit le niveau hiérarchique. Parce que le fait qu'il vienne voir la personne qui est en train de vivre ça, ou qui l'a vécu, le fait qu'il lui dise que ce n'est pas normal, et que ça s'appelle, par exemple, des violences sexistes, sexuelles au travail, et ben, tu fais sortir la personne de son vécu de souffrance, éventuellement de silence, et tu commences à lui permettre de prendre conscience que ce n'est pas normal, et que ça doit cesser, et qu'on peut faire des choses pour que ça s'arrête. Et qu'elle, elle va être aidée. Voilà, c'est tout ce, tout ce cheminement-là qui est important. Et si, par exemple, mon ou ma collègue est en train, qui a vécu ça n'est pas en capacité à réagir elle-même, eh ben, je l'accompagne, je lui propose de l'accompagner vers des acteurs qui vont pouvoir l'aider et petit à petit cheminer pour sortir de cette situation-là. Donc, distraire, déléguer, diriger, documenter, dialoguer. Voilà, ça c'est un super repère, qu'on soit témoin ou victime.
Merci. Ça nous donne des clés essentielles pour identifier et savoir comment s'accompagner soi ou les autres lorsqu'on vit des violences.
Ouais. Exactement.
C'est de là en fait qu'on prend l'importance d'être accompagné de manière pluridisciplinaire. De la même façon que pour accompagner le burn-out, en fait, on va aller se tourner vers différents acteurs. Tu peux en dire quelques mots, s'il te plaît ?
Oui, bien sûr. Si je suis victime ou témoin, il y a une question fondamentale qui est-ce que j'alerte ? Puisque je t'ai dit préalablement, il faut en référer aux autorités. Donc, l'idée, c'est si je suis témoin, je peux alerter avec le consentement de la victime. Ou je peux alerter sans préciser le nom de la victime. Et si je suis victime, je peux aussi, et bien évidemment, alerter pour moi-même. Donc, la logique, c'est de contacter un ou plusieurs des intervenants, des acteurs, qui sont dédiés à cette question-là. Que ça soit pour le burn-out ou le VSST, c'est les mêmes acteurs. Hein. Donc, ça va être les RH. Si éventuellement, il y a un référent VSST dans ma structure, toute personne représentant mon employeur, les délégués syndicaux, pardon, le CSE, puisque maintenant, on ne parle plus de CHSCT, on est passé en CSE, Comité Social Économique, le supérieur hiérarchique. Et puis, je vais avoir également le service de santé au travail, soit qui est en intra, soit qui est en externe, avec médecin du travail, psychologue du travail, infirmière en santé au travail. Donc ça, c'est trois acteurs très importants qui sont là pour moi ou pour mon collectif. Si on repère ce type de comportement, ça fait vraiment partie de leur mission de prévention. Donc il ne faut surtout pas hésiter à aller les voir et ils font du super travail. L'inspection du travail, le défenseur des droits. Et puis ensuite, je peux aussi aller voir des associations spécialisées pour me faire accompagner. Et je vais avoir du coup différentes ressources qui vont être à ma disposition aussi à travers ces associations ou des numéros aussi que l'État met en place hein, pour avoir des repères.
D'accord. Donc, il n'y a pas forcément d'ordre dans les contacts à avoir avec ces intervenants-là. C'est en fonction aussi de comment, de ma position, de ce qui est plus facile pour moi d'actionner, etc. En fait, là, c'est vraiment comme une bibliothèque de ressources que tu nous fais part là, en listant ces intervenants et ces acteurs. Exact.
Oui, et du coup, si je suis victime, ben, je vais faire au mieux de ce que je peux vu l'état dans lequel je suis.
Oui, c'est important de le rappeler.
Voilà, et donc, ce n'est pas grave si je n'ai pas fait les choses de façon idéale. Par contre, ce qui est important, c'est que j'ose aller chercher de l'aide. Donc, dans ma bibliothèque de ressources, j'essaye. Et puis, si mon premier interlocuteur, je ne me suis pas sentie bien, je n'ai pas eu l'impression qu'il m'avait écouté ou compris, je prends mon courage à deux mains et je vais en voir un autre. De toute manière, il y aura toujours un interlocuteur qui va être le bon pour moi et qui va savoir m'accompagner et me permettre de sortir de la situation. Ça demande un petit peu de courage pour les victimes, mais c'est important justement de rester sur ce fil-là. Et ensuite, si je suis témoin, je peux guider en fait, la victime parce que j'ai connaissance de bibliothèque que tu évoques. Et je peux aller lui dire, peut-être qu'en premier lieu, ce qui serait important, c'est que tu ailles à la médecine du travail en fonction de l'état dans lequel tu es, de bien écrire les choses. Je peux t'aider, si tu veux, à tracer les choses de façon factuelle. Il faut alerter l'employeur. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut aussi penser en fait avec la victime pour l'aider à oser franchir les pas et sur la manière de le faire. Donc, qu'elle soit guidée en fait.
Est-ce qu'il y a des choses importantes à dire aux témoins dans l'ordre, là on a vu ce qu'il fallait faire, est-ce qu'il y a des choses à ne surtout pas faire?
Dans la manière de recueillir la parole de la victime, effectivement on peut avoir ce qu'on appelle des bonnes pratiques et puis des choses à éviter. Dans ce qui est à éviter, c'est de renvoyer la faute sur la victime. Par exemple, on reprend l'exemple de la collègue à qui on fait des remarques régulières sur son physique pendant les réunions. Si je suis témoin de ça, je ne vais surtout pas aller lui dire peut-être que tu as laissé croire que tu étais intéressée ou quand même, c'est vrai, tu viens en travail avec un haut qui est décolleté qui permet de voir ta poitrine. Donc, ça justifierait le fait que tu aies ce type de remarque-là. On n'a jamais ce type d'agissement-là parce qu'on va majorer la culpabilité dont je te parlais. Ne jamais relativiser ou banaliser. Une phrase du type tu sais comment il est, il ne faut pas le prendre pour toi, c'est normal. Non, en fait, ce n'est pas normal. Ne pas non plus démarrer un interrogatoire avec 50 questions, parce que selon l'état dans lequel la personne est, elle n'est peut-être pas capable en fait, et c'est trop dur d'aller lui demander ça. Donc, d'être calme, nous on va parler contenant en temps de vocabulaire psy, et le minimum, et surtout voir comment est-ce que je peux l'aider. Ça, c'est important aussi de le dire, notamment pour les violences. Je n'organise pas une médiation immédiate. Je ne dis pas quelque chose du type « Attends, je vais aller chercher la personne qui vient de faire ça. » Il y a forcément un malentendu, je te reconfronte à la personne.
Non, il faut D'accord. protéger en fait exact, la personne tout faire pour la.
Oui. La ça veut pas dire qu'il n'y aura pas plus tard dans le traitement de la situation peut-être une proposition de médiation, mais ça se met en place, c'est un processus et il faut être passé d'abord par les étapes que je t'ai évoquées préalablement. Ça, D'accord. c'est ne jamais faire ça. On va quand même dire les bonnes pratiques et ce que je peux dire oui. à la victime. Donc, dans les bonnes pratiques, je mets en confiance, j'écoute, je m'isole avec la personne éventuellement. Je ne parle pas de ça dans le couloir ou à la cantine. Je lui propose, est-ce que tu veux qu'on aille à tel endroit ? Il n'y a pas trop de monde pour qu'on soit au calme, que tu puisses me parler tranquillement. Est-ce que tu as envie de me parler ? Est-ce que c'est la première fois que ça arrive ? Nommer ce qui est en train de se passer, si je suis suffisamment à l'aise en termes de repères et de catégorisation des VSST et des acteurs, ressources. Est-ce que tu veux que je t'accompagne sur un écrit, sur un acteur qu'on peut aller voir ensemble et surtout dire que on reste disponible parce qu'on peut être confronté parfois à un collègue ou une collègue qui est victime et qui à ce moment-là n'est pas capable et qui va tout refuser. Mais ce n'est pas grave en soi parce que le fait qu'on ait fait toutes ces démarches-là, ça commence à faire rentrer en fait, pour l'autre qu'il n'est pas tout seul et qu'il y a des solutions. Et ça, c'est, je veux le dire parce que je le vois vraiment dans la pratique. J'ai très régulièrement, alors notamment des femmes qui me disent, au moment où ma ou mon collègue m'a dit, est venu vers moi, je n'étais pas capable et j'ai tout refusé. Par contre, un peu plus tard, je me suis rappelée qu'il ou elle avait fait ça pour moi et donc ça m'a permis de passer le cap et d'aller voir les acteurs et de commencer à mettre quelque chose en place pour moi. Ça a tout changé pour moi, le fait que quelqu'un vienne me voir et me propose tout ça. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire avec les précautions là, que je viens de donner. Ce qui peut se traduire dans le fait que, dans des phrases types que tu peux dire à la victime, c'est « tu as bien fait de venir me voir, ce que tu me décris, ça pourrait être qualifié de… Ta, ta, ta. Ce que tu me décris, c'est grave et c'est interdit. Je vais t'aider. On va faire un signalement. » Ce type de phrases-là, tu vois, ce n'est pas des phrases qui sont… attaquantes pour la personne, c'est des phrases qui sont rassurantes, contenantes et qui petit à petit vont l'aider à mettre en place ce qu'il faut pour elle.
Permettre d'ouvrir la parole, de libérer quelque chose.
Exactement.
Ok. On a une dernière, pour finir, moi, ce podcast qui est très enrichissant, qui nous apporte énormément de clés, de compréhension, de prévention. Enfin, vraiment, c'est d'une richesse, je trouve, Jeanne, cet épisode. Quel serait, là, aujourd'hui, ton meilleur conseil d'experte à apporter aux burn-out victimes de violences au travail et aux proches des victimes ?
De ne pas rester seule. Maître mot numéro un. Donc, c'est d'oser aller chercher des contacts internes ou externes. Et le plus dur, je vais le dire comme ça, le plus dur, c'est de faire le premier pas. Mais une fois que j'ai franchi ça, je vais finir par trouver quelqu'un qui va m'aider et que ça cesse et que je puisse reprendre une vie normale professionnelle. Quand même des objectifs, tu vois. Donc, on a cité là des contacts en interne, on a cité des contacts en externe. Peut-être on peut aussi dire qu'il existe... des numéros de téléphone qu'on peut appeler, des associations, un site internet. Si tu es d'accord, je donne ces éléments-là aussi. Parce que des fois, c'est plus facile. Mmh. Voilà,
Ils seront écrits aussi dans la description de l'épisode et sur les réseaux sociaux. Mais oui, je veux bien que tu nous les cites.
Parfait. Donc, par exemple, tu peux faire le 116-006, qui est un contact dédié à l'aide aux victimes. Tu peux faire le 3919, Violence Femmes Info. Tu as l'Association européenne contre les violences faites aux femmes, l'AVFT. C'est une super association qui fait un très beau boulot. Il ne faut vraiment pas hésiter à les solliciter. Et tu as aussi, par exemple, la plateforme du ministère de l'Intérieur du signalement de cas de violences sexuelles et sexistes. Donc c'est https://www.service-public.fr/cmi. Donc on le remettra parce qu'il faut aussi signaler la réalité de ces violences sexuelles et sexistes sur le travail, dans le monde professionnel, pardon. Et bon, il y en a beaucoup d'autres, hein, des acteurs. On va citer notre association quand même, Elburn, hein, où on fait aussi un travail, on peut le dire, merveilleux, d'accompagnement pour les femmes victimes d'épuisement professionnel et aussi de violences sexistes et sexuelles au travail. Donc, contactez-nous, on a un site internet, on a une super équipe et on est là. Et du coup, on met bien en œuvre et en pratique cette logique de ne pas rester seul. Et c'est parce qu'on est à plusieurs et solidaires qu'on arrive à passer des caps difficiles dans sa vie.
Merci, Jeanne. Merci, je te souhaite une belle journée et je te dis à très bientôt. Merci.
Merci beaucoup, Marlène. C'était avec plaisir. Et puis, j'espère que ce sera utile aux femmes et aux hommes et qu'on va pouvoir faire avancer cette cause-là dans notre pays et bien progresser là-dessus.
Absolument. Merci pour ces dernières paroles.
Je vous propose, si vous avez aimé, de nous laisser votre avis, à partager ce podcast tout autour de vous. Pour nous aider, nous les Burnettes, à lever le tabou sur la question du burn-out, c'est de cette manière-là que nous ferons changer les choses. Pour en savoir davantage sur l'action et les événements de l'association Elburn, connaître la communauté des Burnettes, rendez-vous sur les réseaux. À bientôt !